Chapitre 7e. 250 francs de capital, quand elle craignait d'avoir des dettes à payer, c'était une fortune pour Hélène. Cependant, ni elle ni sa grand-mère n'établirent leur vie là-dessus. Deux jours après leur installation, la grand-mère annonça d'un air triomphant à sa petite-fille qu'elle avait trouvé du travail qui allait améliorer leur position. Des bas de laine à tricoter pour une famille de 8 personnes où l'on n'usait que des bas et des chaussons faits à la main. On ne les lui payait pas cher, mais enfin, elle pourrait gagner de 11 à 12 sous par jour et peut-être même 13. C'est que sans me vanter, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de tricoteuses qui aillent aussi vite que moi. J'ai encore des doigts. Chez mon frère, c'était moi qui faisais les gilets, les bas et les bonnets de toute la famille. Et jamais ils n'ont attendu après. 10 personnes et des hommes qui usent en travaillant dur, c'était une affaire. Pour Hélène, elle eut la chance de trouver à donner une leçon d'une heure tous les soirs, le dimanche excepté, à une lingère qui voulait corriger son écriture et son orthographe afin de faire concurrence au sœur Ledoux, en possession, depuis longues années, de la meilleure clientèle du pays. On ne la lui payait qu'un franc cette leçon, mais, dans sa position, 20 sous était une somme qu'elle ne pouvait ni dédaigner ni refuser. De même, elle ne pouvait pas davantage refuser ni dédaigner cette leçon. Malgré la position de son élève, une femme de mœurs légères, disait-on, qui n'ayant pas réussi à Paris, était venue tenter une meilleure chance à Condé. La leçon et les bas de laine leur procuraient une recette de 42 francs par mois, c'est-à-dire à peu près de quoi manger, se chauffer et s'éclairer, mais bien entendu, en réduisant la nourriture, le chauffage et l'éclairage au strict nécessaire. Du pain, des mottes de thon et de mare de pomme, une chandelle des 12 à la livre. La grand-mère n'était pas sensible au froid, et elle n'avait pas besoin de voir clair pour travailler. Quant à Hélène, elle était assez robuste pour supporter toutes les privations sans en souffrir au moins immédiatement, et assez résolue pour les accepter sans s'en plaindre. Cela ne durerait pas toujours, d'ailleurs. Elle pouvait trouver une autre leçon. Elle pouvait être nommée. Cependant, cette nomination n'arrivait pas, et rien ne faisait prévoir qu'elle arrivât bientôt. Hélène voulut essayer de la hâter. Lorsqu'elle avait formé sa demande, elle avait écrit au directeur de l'enseignement primaire, qui réside au chef-lieu du département et qui est en même temps inspecteur d'académie, mais elle n'avait point été le voir. Ayant un peu d'argent devant elle, elle se décida à une démarche qui sans doute était indispensable et qu'elle n'avait pas le droit de ne pas tenter. Profitant d'un moment où son élève n'était pas libre le soir, ce qui arrivait assez souvent, elle s'était donc mise en route pour solliciter celui qui tenait sa vie entre ses mains, terriblement émue, mais cependant résolue. Elle avait demandé une lettre de recommandation à l'inspecteur primaire, et celui-ci la lui avait refusée, sans la refuser bien entendu, mais aussi sans la donner. Ce serait montrer une impatience dans sa position peu convenable, et puis elle avait pour se présenter le nom de son père, qui valait toutes les meilleures recommandations. Enfin, toutes les excuses d'un homme qui a peur de s'avancer et ainsi de se compromettre. C'était bien sur ce nom de son père qu'elle comptait, et ce fut lui qui la soutint lorsqu'après 3 heures d'attente, elle fut enfin admise auprès du directeur de l'enseignement. Autant l'inspecteur était timide et hésitant, autant le directeur était plein d'assurance. Ce n'était pas lui qui avait peur d'une affirmation, quand, bien entendu, c'était lui qui la donnait du haut de sa grandeur et de son infaillibilité. « Quelle singulière idée avez-vous de vouloir entrer dans l'enseignement primaire ? » dit-il superbement. « Où cela vous conduira-t-il ? À vivre, vous croyez ?» C'était un universitaire qui avait la religion de l'université, mais qui n'avait qu'en très petite estime l'enseignement primaire. Qu'on fût professeur, c'était bien, c'était même ce qu'on pouvait être de mieux en ce monde, et il ne connaissait pas de profession plus haute et plus noble. Mais maître d'école, qu'on enseignât à de petits bourgeois de 8 ans à décliner Rosa, on était quelqu'un, un bon humaniste, pensez donc, mais qu'on a appris à des petits paysans à conjuguer finir ou à répéter un nombre autant de fois qu'il y a d'unité dans un autre nombre donné, la belle affaire en vérité. Pourquoi n'entreriez-vous pas dans un pensionnat où vos qualités de distinction trouveraient un meilleur emploi, dit-il. J'ai ma grand-mère, que je voudrais garder avec moi, et en agissant ainsi, j'exécute les intentions de mon père. Sentimental, ce brave Marguerite. À quoi cela lui a-t-il servi? À se faire aimer, et il l'a été tendrement, je vous jure. Sans doute, sans doute. mais la vie ne se fait pas avec le sentiment, ni la nôtre, ni celle de nos enfants. Au moins la prépare-t-il quelquefois, et c'est mon cas, car si mon père ne m'a pas laissé de fortune, il m'a laissé un nom, qui me permet de faire appel à votre esprit de justice. » Cela fut dit la tête haute, sans forfanterie, mais avec fermeté, en fille qui est fière de son père. « Bien, mon enfant, vous me paraissez une brave fille. Je tâcherai d'être digne de mon père. C'est lui que j'invoque pour vous prier de ne pas oublier ma demande. » Elle revint à Condé avec bon espoir, car si on ne lui avait rien promis de positif ni d'immédiat, on lui avait cependant donné de bonnes paroles. Ce sentiment d'espoir se produisit juste à propos pour lui faire supporter sans trop d'accablement la perte de Salson, qui arriva le lendemain même de son retour. Bien que n'étant plus toute jeune, son élève était encore assez jolie et assez bien conservée. Surtout, elle avait l'air assez peu sévère pour faire sensation dans un monde de jeunes gens qui, s'ennuyant fort à Condé, étaient à la recherche de distractions, quelles qu'elles fussent. N'ayant presque pas de relations dans la ville et trouvant toujours son élève seule quand elle la trouvait, Hélène ne savait rien de sa conduite et presque rien de son caractère. Il lui semblait bien qu'elle était un peu trop coquette dans sa toilette et un peu trop légère dans certains propos, mais c'était tout. La façon dont le temps de la leçon était employé ne permettait pas la causerie. « Combien j'ai regretté de ne pas vous avoir hier, » dit la lingère lorsque Hélène arriva. « Vous m'auriez rendu un fier service, mais il est encore temps aujourd'hui. Je suis à votre disposition. Voici de quoi il s'agit. Au lieu de notre dictée ordinaire, je voudrais que vous me fassiez faire le brouillon de deux lettres que je recopierai ensuite. Vous me les dicteriez et vous corrigeriez mes fautes. Mais pour vous dicter ces lettres, il faut que je sache au moins ce que vous avez l'intention de dire. « Alors vous voulez bien ?» s'écria-t-elle, en passant de l'embarras au contentement. « Mais sans doute si cela peut vous obliger. Je crois bien que cela m'oblige. C'est un devoir comme un autre, et même c'est un bon exercice. Voici la chose. La première lettre est une réponse à une déclaration que j'ai reçue. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est d'un monsieur très bien, connu dans la ville et qui a signé son nom. Mais cela ne fait rien, je sais ce que je veux dire. Vous n'aurez qu'à me mettre en belles phrases ce que je vous expliquerai. La seconde, au contraire, est plus difficile, parce qu'il faut qu'elle soit entortillée, de façon à ce que celui qui la recevra lise dedans ce qu'il voudra lire, et de face aussi à ce que je puisse lui faire dire plus tard ce que je voudrais, blanc ou noir, selon les circonstances. En un mot, c'est une lettre de rupture aujourd'hui, mais faite de telle sorte qu'elle n'empêche pas un raccommodement demain. « Ou plus tard, si la première ne produisait pas ce que j'attends. Vous comprenez, n'est-ce pas ?»« Pas du tout. Aussi ne puis-je faire ni la première ni la seconde. »« La première, je la dicte. Alors je n'ai rien à faire. »« Vous m'aviez dit que vous vouliez bien. »« Je n'ai pas compris que vous me demandiez. Maintenant que j'ai compris, je n'ai qu'à me retirer. »« Par exemple, adieu, mademoiselle. » Et Hélène sortit sans même penser que cette leçon était sa vie, le pain quotidien. Ce fut seulement dans la rue que cette pensée lui vint, mais alors, au lieu de s'arrêter ou de revenir en arrière, elle n'en marcha que plus vite et que plus résolument.